Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute notre équipe, Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui c'est Marc Bisset qui est avec nous jusqu'à 15h à la technique de l'heure du crime. Et à la une, vous l'avez entendu, nous allons lever le voile sur les coulisses de la guerre de l'ombre au féminin, puisque on va beaucoup parler aujourd'hui des espionnes et notamment de ces espionnes russes ou travaillant pour le code, pour le compte de la Russie, qui ont, on peut le dire, influencé tous les grands éléments, tous les grands événements du XXe siècle. On va en parler avec Vladimir Fedorovski. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Vladimir Fedorovski. Au risque de vous faire rougir, on va rappeler à ceux qui nous écoutent que vous êtes l'auteur russe le plus édité, qui a le plus de lecteurs en France.
Et 33e livre.
33e livre. Eh bien, dites-moi. C'est le roman des espionnes, évidemment, qui a attiré notre attention.
Le roman des espionnes, des éditions du Rocher, oui.
Oui, c'est un livre qui paraît donc aujourd'hui, et dans lequel, évidemment, sur la base de documents dont vous allez nous parler, raconte la véritable histoire de ces femmes qui, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas connues du grand public.
Ne sont pas connues. Il y a les agents d'influence que vous connaissez. Il y a Elsa Triolet, il y a Madame Romain Rolland. Mmh. Ça, vous connaissez quand même.
Oui, Matahari, je connais.
Matahari, vous connaissez. Elle n'était pas une vraie espionne.
Non, est-ce qu'elle travaille pour les Russes, d'ailleurs?
Ah, mais il y a la plus grande histoire. L'homme de la vie de Matahari, c'était un Russe.
C'est ça, mais elle travaillait pour l'Allemagne.
Elle travaillait pour... Elle-même pas. Elle était choisie comme un symbole vraiment de la lutte contre les espionnes. D'accord. Et finalement, elle est entrée dans l'histoire universelle. Je commence avec une vraie fausse espionne, Matahari, et je termine avec une vraie fausse espionne des temps modernes qui existe encore. Mais c'est vrai, vous avez raison, Jacques Pradel. Vous, quand vous soulignez que derrière chaque événement du XXe siècle, et sinon aujourd'hui, il y a une femme qui a joué un rôle décisif.
Ouais.
Les Russes, ils ont piqué la bombe atomique. Ils ont placé dans le lit d'Einstein une très belle femme, Nina pittoresque. Les bolchoïs, le système de Romain, le système des hirondelles. Quel système éblouissant.
C'est très bien d'avoir parlé des hirondelles. Parce que, alors, je le disais tout à l'heure, quand on en parlait avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, que c'est vrai que les confidences sur l'oreiller restent un grand classique. Que c'est en général tout de suite ce que les hommes pensent quand on dit on va parler des espionnes. Ah, encore les confidences sur l'oreiller. Et beaucoup de celles dont vous parlez se sont servies autant de leur intelligence que de leur charme, mais parlons des hirondelles. Et on va en parler à travers une affaire que vous racontez dans votre livre qui est absolument passionnante, parce qu'on est vraiment dans les coulisses d'une opération de grande envergure, montée à l'époque, je crois, de Khrouchtchev. De Gaulle était au pouvoir en France, et à Moscou, il y avait un ambassadeur de France, et le KGB a décidé qu'il fallait, je sais pas comment on dit, approcher cet homme et lui mettre dans les pattes une jolie espionne.
Voilà, ça c'est une histoire. J'ai connu cet ambassadeur, assez extraordinaire personnage, il faut dire, qui est un grand diplomate, mais qui est une grande figure du gaullisme. Dejean, il s'appelait. Oui. Vraiment, un vrai français, mais comme je suis francophile, quand je raconte les espionnes, évidemment, je raconte les Français, amateur de grand vin, et il aimait les femmes.
Maurice Dejean, pourtant, il n'était pas très beau, très grand.
Moi, je l'ai trouvé plein de charme, vraiment. Assez bien connu à la fin, puisqu'il restait très russophile avec cette histoire qui a mal terminé. Et il débarque en Russie, mais il faut comprendre que De Gaulle, à l'époque, c'était vraiment une carte maîtresse dans la géopolitique mondiale. De Gaulle, qui a été prémonitoire quand il a prononcé la phrase célèbre « L'Europe de l'Atlantique à l'Oural ». Et il place à Moscou l'homme de confiance qui était avec lui pendant la période vraiment de la lutte contre les nazis, France libre, etc. Dejean, qui est très proche.
Maurice Dejean,
formidable, amateur des vins et des vraiment.
Et il vient à Moscou. Qui est marié, il vient avec sa femme à Moscou.
Une belle femme, bien entendu, mais vous savez, ça arrive, rien que récemment, ça arrive que d'avoir des à côté, n'est-ce pas? Et puis.
Alors, les à côté, il a quand même préparé par le KGB, quand même. Racontez-moi.
Non,
alors.
Il vient.
Qu'est-ce qui se passe?
Il faut faux. Oui. Vous vous souvenez, Jacques Pradel, vous étiez à Moscou, vous vous souvenez, cette ambassade française extraordinaire, qui est un palais d'un grand marchand russe devenu l'ambassade, avec les fresques, tout ça.
Donc, bon, où il y a la réception.
Moscou, où la France est aimée. L'Europe, qui ne parlait jamais de l'Union soviétique, il parlait de la Russie. La France est aimée. Oui. Et évidemment, tout Moscou est à l'ambassade. Et puis, une belle femme. Tout d'abord, les artistes. Parce que les Girondelles, n'oubliez pas, c'est un système qui a été monté par Staline, peaufiné. C'est-à-dire, les femmes, les plus belles femmes de Moscou, ils ont des petites histoires, parfois des grandes histoires d'amour, avec les Occidentaux. Et après, comme vous dites, sur l'oreiller, il les piège.
Voilà. Alors, pourquoi les hirondelles, vous le dites, et ça, effectivement, je l'ai découvert en lisant votre livre, qu'on appelait ça le système des hirondelles. Parce que les hirondelles font souvent leur nid côte à côte. Et en général, ces belles jeunes femmes dont vous parlez, commanditées par le KGB, par les services secrets, pour obtenir des renseignements précieux, évidemment, avaient des appartements que le KGB leur offrait, bien sûr, mais il y en avait deux des appartements. Il y avait toujours celui où allaient se dérouler les ébats amoureux qu'on imagine, et puis dans la pièce d'à côté, il y avait un autre appartement qui, lui, était bourré de techniques.
Une histoire de studio.
Et de techniciens, voilà. C'était un studio d'enregistrement, avec les micros, les caméras.
J'ai travaillé avec les archives. Paradoxalement, Khrouchtchev, qui était quand même numéro un du Kremlin, vous imaginez bien, il consacrait parfois, avec beaucoup de délices, pas mal de temps pour regarder, puisqu'on lui apportait tout ce qui était filmé.
Privilège du pouvoir, bien sûr.
Les choses comme ça, c'est en fait une sorte de film, on peut oser, j'ai failli dire porno avant l'heure, mais quand même, les choses comme ça. Bref, les choses comme ça. Mais il s'est passé étape par étape, je raconte dans les romans d'espion.
C'est une opération qui dure trois ans. L'approche de l'ambassadeur.
Étape par étape, absolument. Étape par étape, il ne brusquait pas les choses. Tout d'abord, l'ambassadeur voit les grands artistes, et puis il se promène à travers Moscou, et puis les belles espionnes sont toujours là.
Oui.
Et puis
on fait rencontrer aussi un monsieur très sympathique à Madame Dejean, qui va l'emmener aussi faire des courses ou découvrir la banlieue de Moscou, et pendant ce temps-là,
arrivent dans le nid. Je vais vous dire, toutes ces histoires des espions, dans la réalité, ça frôle, et vous avez constaté ça récemment encore, parce que la politique, c'est souvent l'opérette et la tragédie. Et je dois vous dire que cette fois-ci, il y avait beaucoup de bolchoï, des actrices, des ballerines qui viennent voir l'ambassadeur, mais il a déjà, comme disent les gens d'aujourd'hui, flashé les rues, flashé parce qu'il était filmé en même temps. Vous comprenez ça, c'est...
Alors il a flashé sur une belle jeune femme, savoir évidemment qu'elle était quand même téléguidée.
Espionne, etc. Ouais. Les promenades près de Moscou, les informations, tout ça, c'est très intéressant sur le plan même de la technique de l'espionnage, parce qu'il passe à l'ambassadeur des vraies informations très importantes pour la France. Et finalement, il a dit, ah bon, il faut travailler plus, et encore, il faut fréquenter
d'autres gens.
Et après, le grand une sorte de bonze de KGB l'invite à sa datcha. Datcha est aménagée, encore une fois les caméras, encore une fois...
La datcha, elle avait été donnée par le chef des services secrets qui avait donné sa datcha pour ce truc. Alors, simplement, là, avant la pause, quand même, il faut vous dire la fin de l'histoire. Il n'y a pas eu, apparemment, de roman d'amour, un jour, monsieur l'ambassadeur...
Ça allait jusqu'au bout, quand même.
Monsieur l'ambassadeur se retrouve dans le nid douillet de l'hirondelle qui a été désigné pour lui obtenir des renseignements. Et là, elle va lui jouer. Alors là, on est effectivement dans le théâtre de boulevard. Elle lui dit, viens chez moi, mon chéri, enfin, ça j'imagine, parce que de toute façon, mon mari est en voyage, mais il va rentrer demain. Et pendant qu'ils sont dans l'appartement, on sonne à la porte, où on entend les clés qui tournent et qui ouvrent la serrure, et voilà le supposé mari de la dame...
Le mari, qui arrive, un habillé soit Jean Géolo, qui est rentré dans la Sibérie, et il commence à le battre.
Avec des patogas au pied, comme un archéologue qui arrive effectivement de Sibérie, et là, qui passe quand même l'ambassadeur à tabac, et à ce moment-là, la fille lui dit, mais non, arrête, c'est l'ambassadeur de France, etc. Donc en fait, on fait tout pour le coincer, en se disant, il voudra pas que ça se sache à Paris.
Bien sûr.
Mais ça s'est su à Paris et on va raconter pourquoi dans un petit instant ensemble.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Le roman des espionnes, c'est un livre qui paraît aujourd'hui aux éditions du Rocher sous la signature de Vladimir Fedorovski. Qui sait, si j'ose dire, de quoi il parle, puisque ancien diplomate, vous avez vécu évidemment tous les grands bouleversements de la fin de l'Union soviétique. Vous avez accès à des archives qui vous permettent de faire la part entre les légendes et la réalité. Et vous avez obtenu, on peut le dire aussi, beaucoup de témoignages à propos des femmes dont vous parlez dans votre livre.
Vous voulez que je vous dise ?
Oui, bien sûr.
Un espion entre dans cette pièce avec tout ce que j'ai connu autrefois. Je vous dis, je le détermine tout de suite.
D'accord, ok. Alors, on va revenir à De Gaulle. On est dans les années 66, 68, quelque chose comme ça. Monsieur De Gaulle, donc ambassadeur de France, après 3 ans d'approche, etc., va tomber dans ce piège, dans le nid de l'hirondelle qui a été désignée. Il se fait casser la figure par le mari. Qu'est-ce qui se passe après ?
Mais après, il y avait, au fait, vous savez, dans ce genre d'espionnage, il y a toujours les agents doubles. Et l'histoire, il y avait connu, parce qu'il y avait les acteurs et les écrivains qui ont été mêlés à ça. Et finalement, un écrivain qui est passé à l'Est, qui a quand même donné une sorte de piste à De Gaulle. Et alors, De Gaulle tant aimé en Russie, De Gaulle, une figure historique, il est assis dans son bureau. On m'a raconté l'histoire vraiment de la première main. Oui. Il est assis, il lit le journal et De Gaulle est convoqué. Il tremble. Qu'est-ce qu'il va dire ? Son compagnon ? Est-ce qu'il sera puni ? Est-ce qu'il sera viré ? Et De Gaulle lit le journal. Il enlève les lunettes, il pose le journal, il prononce une phrase historique qui est entrée dans les annales de la diplomatie. Je le traduis d'une manière polissée. Il dit « Alors, De Gaulle, on couche. » Et c'était la seule poule. Et c'était la seule pulsion. Alors, déjà, un coup, c'est entré dans l'État. Il était envoyé après.
Oui, il a poursuivi sa carrière.
Il était envoyé ambassadeur en Tunisie. Ouais. Et à la fin de carrière, quand je l'ai connu, quand il était assez âgé, et il faut dire qu'il était devenu. C'est ça qui est. Vous savez, quand je raconte ces histoires, il y a quelque chose de très bizarre. Je dis l'opérette, Mais il y a
le drame derrière.
Il y a le drame derrière, il y a l'affinité extraordinaire. Comme c'était un gaulliste convaincu, il était toujours très attaché. Et ce qu'il aimait par-dessus tout, je l'ai invité de temps à l'autre au spectacle de Bolchoï. Il venait avec beaucoup de plaisir. En souvenir peut-être de ce, je vous assure. Je vous assure. Et je garde. Vous me connaissez, je suis vraiment francophile. C'est les gens extraordinaires de cette époque gaulliste. Les amateurs, bien sûr, des bons vins. Allons. Et des femmes et des ballerines de Bolchoï.
Alors, juste un mot encore pour la phase dramatique de ces affaires. On ne va pas en parler beaucoup, mais il faut le dire quand même. Dans ces approches des Français par des hirondelles à Moscou, il y a eu cette affaire un peu carnavalesque, on va dire, de l'ambassadeur, mais il y a un homme qui s'est suicidé.
Absolument. Ils ont piégé. Mais ça, c'est parce qu'il y avait, pour rester, dans l'air du temps, ils ont souvent utilisé les garçons aussi pour piéger.
Oui. On les appelait les opérations Roméo.
Roméo. c'est carrément parce que Soko Andropov, quand il y avait vraiment le chef mythique du KGB, quand il était dans les espoirs, il a dit qu'est-ce qu'il faut demander ? Il disait il faut demander homme interne. Pas comme interne, mais homme interne. Il y avait les garçons. Et je crois que l'attaché.
Et alors donc un jour,
il était piégé par ça. Ouais. Et finalement, il s'est suicidé. Ouais. C'est souvent le paradoxe de ça. On dit que c'est pittoresque, que c'est juste pour rigoler, etc. Ouais. Les histoires.
Ça
mais cela dit, c'est vraiment.
Drame.
Il y a un côté shakespearien dans l'affaire. Ouais. Dans l'affaire
et il y avait. Parce que c'est vrai, quand on parle d'espionnage, comme ça, on dit, mais on parle d'ambassade ou de maisons particulières dont les murs sont truffés de micros, où il y a des caméras et tout. Mais le KGB avait fait ça aussi dans une Vespasienne de Moscou, vous le racontez.
Oui, bien sûr.
Voilà, qui était connue de tous les homosexuels.
En interne,
voilà. Oui. Et c'était donc là où se faisait.
Les ébats. Finalement, il ne faut pas se leurrer. Il y avait peut-être le pro-grand groupe des espions, ça s'appelle les 5 de Cambridge. Les 5 de Cambridge, c'est une histoire extraordinaire.
Philby,
qui était le chef de contre-espionnage britannique qui travaillait pour Staline, à tel point que les informations destinées à Churchill arrivaient sur le bureau de Staline avant qu'il arrive au destinataire. C'était les choses. Mais sur les autres quatre, ouais, il y avait souvent les homosexuels et bisexuels. Ouais.
Alors bon, on ne peut pas tout raconter. Là, je renvoie les lecteurs au livre qui est vraiment passionnant parce qu'il foisonne d'histoires et d'histoires très peu connues. Mais puisque vous venez de parler de Philby, juste, je l'évoque comme ça. Un jour, il y a une femme dont la sœur va passer à l'Est. Hein, on va savoir que la sœur de cette femme, elle est mariée.
Absolument.
Elle est d'origine de l'Est.
Très grande dame. Je commence avec elle.
Un militaire considérable.
Oui, c'était l'amiral, le plus grand amiral britannique, mm-hmm, qui était marié avec une très grande aristocrate, amie de la reine, il faut dire, et finalement une parente du tsar.
Et qui était d'origine russe.
Sa sœur est passée à l'Est. C'était un éblouissement. J'ai connu, c'est un souvenir de cette dame que je raconte toutes ces histoires. Ouais. Vous voyez, au début, je raconte ma conversation et elle les a connues.
Elle vous a raconté l'histoire, les yeux dans les yeux, et en fait, elle va... elle est terrifiée, elle se dit la carrière de mon mari va s'arrêter, que faire? Elle travaille aussi pour les services britanniques, et elle demande un rendez-vous et elle va s'excuser auprès de Philby, dont elle ne soupçonne
pas. C'est-à-dire, vous voyez, retournement.
C'est extraordinaire.
Moi je vais vous dire, il a prononcé une chose juste pour terminer, il a dit ils ont pensé qu'il y avait un choix entre Hitler et Staline, elles ont choisi Staline. Mais il y avait un autre choix, c'est mon ami, mon copain, Winston Churchill.
Alors, on va reparler de tout ça dans un petit instant, on va faire une nouvelle pause dans l'émission. Après, on va parler alors d'une page extraordinaire de l'espionnage soviétique au féminin. Et vous allez constater d'ailleurs, à travers ce qu'on va dire et ce que vous allez entendre grâce à des archives sonores de la rédaction d'RTL, c'est une histoire qui a commencé vers la fin de la guerre, enfin pendant les dernières années de la guerre, la Deuxième Guerre, et qui se poursuit encore aujourd'hui en fait. Ce sont les espionnes atomiques. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et tout de suite avec mon invité Vladimir Fedorovski qui publie aujourd'hui aux éditions du Rocher le roman des espionnes. On va ouvrir un autre chapitre dont vous parlez dans votre livre et qui nous ramène dans cette guerre de l'ombre, dans la guerre froide ou dans la guerre tiède. On verra tout à l'heure pourquoi les deux expressions peuvent être employées. Avant de parler de ces espionnes atomiques que l'Union soviétique avait envoyées vraiment avec pour mission de faire avancer la science soviétique.
Le mot atomique, ça me plaît.
C'est beau, c'est très beau, oui, absolument. Avant de partir dans cette période de la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, juste pour prouver à tout le monde que ça continue aujourd'hui, on a trouvé, Margot Agnès a trouvé dans les archives sonores de la rédaction d'RTL, un document qu'on va entendre maintenant, qui date du 11 septembre 1999, donc c'est pas loin. Ce jour-là, on vient d'apprendre à Londres qu'une Britannique âgée de 87 ans avait été pendant plus de 40 ans une des espionnes les plus importantes du KGB. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle fournissait notamment des secrets militaires britanniques à l'URSS. Et Daniel Caron racontait cette affaire sur l'antenne d'RTL, donc le 11 septembre 1999.
Elle avait 25 ans, Staline n'était au pouvoir que depuis 4 ans. Melita Norwood, militante du Parti communiste britannique, croyait que le paradis existait derrière le rideau de fer. Elle voulait aider, dit-elle, ce nouveau gouvernement qui avait donné aux gens ordinaires de quoi manger à des prix abordables et un bon service de santé. Elle était mariée à un professeur de mathématiques, communiste lui aussi. Il savait ce qu'elle faisait, mais ne l'avait jamais dénoncé. Melita était secrétaire dans un bureau qui étudiait les nouveaux alliages nécessaires pour fabriquer la bombe atomique. Les documents qu'elle a transmis ont permis à l'Union soviétique de rattraper son retard dans le domaine nucléaire. Melita, qui s'appelait Ola pour Moscou, avait accès à des documents dont le premier ministre de l'époque ne parlait même pas à son gouvernement. Selon le chercheur qui a retrouvé sa trace dans la confession d'un transfuge du KGB, grâce à elle, Staline était mieux informé sur la bombe atomique britannique que certains ministres de Sa Majesté. Melita a travaillé pendant 40 ans pour le KGB sans être découverte. Elle n'avait pas touché d'argent. Elle espionnait par idéal. Aujourd'hui, grand-mère, arrière-grand-mère, l'espionne des banlieues dit qu'elle ne regrette rien.
L'espionne des banlieues.
Quel document. Mais je vais vous dire, Jacques Pradel, je pense que les grands espions du XXe siècle n'ont jamais travaillé pour l'argent. Je raconte dans le roman d'espion, jamais touché. Le plus grand espion français, Farwell, il s'appelait.
Oui.
Les Français, ils lui ont donné, qui a changé la face du monde, vraiment, fin de la guerre.
Oui. On lui a proposé des sommes.
Deux bouteilles de champagne.
Oui, voilà.
Francophile. Il travaillait pour Francophilie et pour la haine. Mais c'est vrai que c'est une période très bizarre, parce qu'encore une fois, les histoires d'amour, l'idéal, le cocktail est explosif, mystère, amour et évasion, vous comprenez tout
mais
ça.
Mais alors, il y a derrière, évidemment, des gens, en général d'ailleurs des hommes, qui jouent un peu comme avec des pions de ces femmes, et vous décrivez dans le livre la technique d'approche qui avait été déterminée par le KGB à l'époque. Donc la mission, c'était ramener des informations sur la bombe atomique, mais comment faire? En plaçant ces femmes auprès de gens sensibles, si on peut dire.
Bien sûr, bien sûr. Il y avait, ça c'est une autre facette très intéressante aussi. Dans ces histoires, il y a souvent les couples qui ont été formés. Mm-hmm. Qui ont été formés au début dans le but de l'espionnage. Mais après, les histoires d'amour créées, et par exemple, elle s'appelait Zarubina, celle qui
Elisabeth Zarubina, voilà.
Européenne, très belle, européenne avant l'heure, d'origine un peu de l'Europe centrale, parlant toutes les langues, la lutte contre les nazis, c'est évidemment, à l'époque, elle était d'origine juive, Shoah, oh non, il faut soutenir Staline pour que Hitler n'arrive pas. Mmh. Hitler était à 6 km du Kremlin, il faut faire tout.
C'était une femme magnifique, hein, je crois.
Magnifique, exceptionnelle, je publie. Exceptionnel. Dans le roman de l'espionnage, il y a les portraits. Oui. Moi, je suis subjugué par ce mélange de la beauté et finalement la fureur de l'histoire entre dans leur pièce. L'histoire, au début, une fille de 17 ans, au nom de l'idéal, elle devient amoureuse d'un terroriste, un grand terroriste révolutionnaire qui travaille avec les soviets. Mais ce révolutionnaire est un copain de Trotsky. Déjà, il y a des doutes. Et à un moment donné, ils sont envoyés en Turquie pour vendre les manuscrits assez précieux pour
ramener de l'argent, en fait,
pour le Kremlin, pour les services. Parce qu'ils vendent ça, mais son mari, il a décidé de donner quelques millions à Trotsky, parce que Trotsky
est le soutien
dans ce cachette. Ouais. Et là, un peu le vent de ça. Comment faire? Est-ce qu'il faut rester fidèle à Staline ou trahir tout ce qui est le plus précieux, l'amour? Et je vous dis du Shakespeare. Et entre l'idéal et son mari, elle choisit Staline et elle sacrifie le mari, puisque le mari...
Là, vous êtes en train de nous parler de Maria Mercader.
Mercader, plus tard.
C'est la même histoire.
C'est la même histoire. Mais celle qui a tué Trotsky plus tard. Mm-hmm. Ça, c'est une histoire encore plus terrible. On va en parler. Mais pour revenir, après, son mari est tué et on place à côté d'elle un professionnel de l'espionnage. Et encore une histoire d'amour est née. Et là, ils sillonnent toute l'Europe. Ils se sont installés, pour parler dans le détail, en France, place de Terne. Au début, c'est les conversations...
Pardonnez-moi, ils vont se retrouver aux États-Unis au cœur de l'État américain où on teste la bombe atomique.
Bien sûr, on les envoie comme résidents. Résidents, c'est un titre d'espionnage, c'est-à-dire chef de service secret de Staline. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, parmi les gens autour de la bombe, les gens profondément antifascistes. Le chef du projet, le Solomon, c'est-à-dire le créateur
c'était
de la bombe...
C'était le projet Manhattan.
Mise
au point de la première bombe atomique.
Oppenheimer, il était quelqu'un qui était profondément antifasciste. Et une femme, la plus belle des femmes possibles, en plus résistante aux nazis, elle vient le voir et il parle. Il parle de la philosophie au début. Vous savez comment il a fait? Il a dit, si l'Amérique seule a la bombe, le monde est en danger. Il faut partager avec les Russes.
Voilà, ils étaient pour éviter que l'atome devienne uniquement une arme de guerre. Et un certain nombre de ces scientifiques, approchés par cette femme et par son réseau, pensaient qu'il fallait au contraire diffuser les informations pour que tous les pays du monde puissent bénéficier des bienfaits de l'atome.
Parce qu'autrement, le monde est en danger. Et finalement, Oppenheimer, consciemment, je vais vous dire la vérité aujourd'hui.
Oppenheimer. Donc,
le chef du projet américain, il a placé près de lui quelqu'un, il savait pertinemment que c'est quelqu'un sympathisant pour les communistes et par conséquent l'agent Fuchs, il s'appelait pour les initiés. Ouais. Et finalement, comme ça, ils ont piqué tout le secret. Mais enfin, dans ce chapitre, il y a plein de choses pittoresques. Vous avez mentionné ce que j'adore.
Nina,
il y a une artiste, Nina dans le lit d'Einstein. C'est pittoresque quand même. Non, mais,
est-ce que ça a été efficace, en fait? Il lui a donné des secrets.
Il a donné des secrets. Mais c'est une vraie histoire d'amour. Encore une fois, mélange de tout.
Oui, d'accord.
L'engagement, tout ça, une vraie histoire d'amour.
Oui,
mais
pour
Einstein, c'était moins pointu, je vais vous dire. Parce que
Elle
travaillait. En fait, c'est
elle était commanditée, cette femme, Nina.
Elle était complètement commanditée, mais en même temps, la vraie histoire d'amour. Et en même temps, mais c'est incomparable par rapport à l'histoire de la bombe. Parce que la bombe, c'était très pointu et ça changeait vraiment l'équilibre des forces. Staline qui a la bombe, ça change l'équilibre de force. Einstein, c'est les grands secrets, mais les secrets de la science fondamentale, finalement. Pour moi, c'est plutôt une belle histoire d'amour. Peut-être un jour, je vais faire une pièce même, Einstein et Nina.
Eh ben, il faut l'appeler E égale MC2, mon amour.
Voilà.
Alors, on va faire une pause tout de suite. On vous retrouve, Vladimir Fedorovski, dans un tout petit instant. Et on va parler de l'après-Staline, parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après-Staline. Mais vous allez le constater, les services secrets sont restés extrêmement actifs et ont placé auprès des hommes de pouvoir des femmes qui avaient pour mission de rapporter des informations précieuses, des secrets aux Russes.
L'heure du crime sur RTL.
Nous sommes en compagnie d'Alexandre, de Vladimir, décidément, je ne sais pas pourquoi je vais vous appeler Alexandre aujourd'hui, Vladimir Fedorovski, qui publie aux éditions du Rocher le roman des espionnes. C'est un livre qui foisonne, évidemment, vous l'imaginez, d'anecdotes, de portraits qui nous emmènent vraiment dans les coulisses de ces opérations très peu connues du grand public. Et on le disait il y a un petit instant, Vladimir Fedorovski, Staline, il y a eu un avant et un après Staline. Bon, on va évoquer la mort de Staline d'abord. C'était donc le 5 mars 1953. C'est une nouvelle, évidemment, qui stupéfie l'ensemble des communistes dans le monde, tout autour de la planète. Et la mort de ce chef suprême du régime soviétique est annoncée sur Radio Moscou par le speaker des actualités. Écoutons, c'est un document de l'Institut National d'Audiovisuel.
Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Pendant ses 28 ans, il se montra l'une des figures maîtresses d'un univers en état de crise. Mais si ces dernières années, la fatigue avait semblé l'atteindre, il n'en remplissait pas moins la charge écrasante de diriger les destinées du monde soviétique. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs?
Alors, qu'en font ses successeurs?
Staline. Mais attendez, Jacques Pradel, vous savez ce qui me stupéfie? Staline, qui a quand même tué 25... Lénine, Trotsky et Staline, 25 millions. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus populaire, historiquement parlant,
dans la
Russie d'aujourd'hui. C'est une chose stupéfiante, mais évidemment, Staline, un grand maître d'espionnage.
Il s'est beaucoup servi de l'espionnage.
Évidemment. Le moment le plus crucial pour Staline, c'était exactement fin octobre 41. Hitler était à 6 kilomètres du Kremlin. Et une espionne, cette fois-ci, une sorte de geisha. Dans réalité, il a partagé sa vie sentimentale avec le premier ministre japonais. Et puis l'espion Playboy, encore une fois, mais le plus pour les initiés, Sorge, il s'appelait. Oui. Playboy, qui était basé au Japon. Mm-hmm. Il donne à Staline l'information cruciale. Hitler n'attaque pas l'Union soviétique, il attaque.
Oui.
Le Japon. Et finalement, les Japonais ne vont pas attaquer les Américains. Ils vont attaquer les Américains et pas les Russes.
Oui.
Et finalement, ils prennent les dernières forces, ils convoquent, et c'est ça qui a sauvé la Russie parce qu'ils ont pu retirer leurs troupes
en prévision d'une...
Cette information sur les Japonais qui attaquent les Américains a été geisha qui
Sorg était un homme et pas une femme, et nous, on parle des espionnes.
Attendez, mais geisha, c'était bien femme.
dont on veut parler maintenant s'appelle Olga Tchekhova, puisque vous dites qu'on l'avait placée près d'Hitler. Elle est devenue la meilleure amie d'Eva Braun. Est-ce qu'elle avait vraiment la mission de tuer Hitler ?
Ça, c'est vrai. C'est une histoire très énigmatique. Une actrice, une célébrissime, on ne peut pas comparer, même aujourd'hui, la plus grande actrice du cinéma muet, copine d'Eva Braun, qui voit Hitler régulièrement, et elle propose à Staline de tuer Hitler. Oui. Staline hésite, long hésite, et finalement, il ne donne pas le feu vert, parce que si elle tue Hitler, en se sacrifiant, dans ce cas-là, les Occidentaux s'arrangent.
Avec le successeur d'Hitler, et ça c'était la crainte de Staline.
La crainte de Staline.
Mais il va profiter d'elle pour avoir des informations, évidemment.
Il va profiter d'elle,
prise au plus haut niveau.
Vous savez que Hitler, il était médium.
C'est elle qui a informé Staline
sur côté médium. Et là, c'est très intéressant de rapprocher Hitler médium et Staline qui a eu son gourou. C'est-à-dire, l'histoire est vraiment énigmatique. Olga Tchekhova, qui est aussi copine d'Eva Braun, et il a toujours nié. Et longtemps, j'ai fait l'enquête sur ça pour trouver, finalement, grâce au numéro de Gorbatchev, la confirmation que je publie dans les romans des espions, la confirmation qu'il a bien formé directement son officier traitant. Ouais. Imaginez-vous bien, c'était le redoutable Beria, chef de service secret de Staline.
Alors, juste un mot pour dire que c'est elle qui a informé Staline que... là, vous confirmez cette information qu'on pouvait penser pour peut-être une rumeur, c'est que Hitler pratiquait la magie noire. Absolument. Il essayait d'anticiper les situations, de faire de la visualisation
de l'avenir.
De l'avenir, c'est incroyable.
Vous ne savez si bien dire, Jacques Pradel, que Staline, réciproquement, quand il utilisait l'art de la propagande, c'est-à-dire réunir le maximum des gens qui pensent à l'avenir. Vous savez, les grandes messes, cela dit, pour parler à l'avenir, dans quelques jours, je vais raconter la grande messe aux Jeux Olympiques. Vous savez, quand on réunit les grandes messes, on pense à une technique tout à fait banale de la magie noire, visualisation de l'avenir. Ouais. Et en l'occurrence, les deux dictateurs, à la fois Staline et Hitler, ont utilisé ce genre de technique.
Alors, on fait une dernière pause dans l'émission. Et on va parler de l'après-Staline, à travers une histoire, en particulier, peut-être deux, si on a le temps. Une histoire qui date des années 60, la fin des années 60, on va dire. Comment le KGB a désigné et manipulé véritablement une étoile du Bolchoï pour qu'elle prenne contact avec Robert Kennedy. Prenne contact, voilà, c'est un euphémisme. Et on va vous raconter cette histoire. Et après, on va voir qui sont celles qui ont succédé à ces hirondelles des années 30, 40, 50. Elles agissent aujourd'hui et on les appelle des illégales.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de l'heure du crime, toujours avec Vladimir Fedorovski, donc qui publie aujourd'hui ce roman des espionnes aux éditions du Rocher. Et je le disais tout à l'heure, Vladimir Fedorovski, après Staline, évidemment, le KGB a continué parce que les services secrets sont faits pour ça.
Mais ça continue.
Aujourd'hui, il ne faut pas faire d'angélisme. Bon, alors comment tamponner, comment approcher des personnages très importants là? Dans la ligne de mire des résidents du KGB, de certains résidents du KGB aux États-Unis, c'est Robert Kennedy, donc le frère du président assassiné.
Et surtout, et John Kennedy. Parce que tout le monde connaît, parce que leur force, leur faiblesse.
John Kennedy est mort au moment où on va
Mais avant, il y avait l'histoire. Il sortait tout le temps avec l'agent du KGB, d'ailleurs, pour voir les actrices d'Hollywood.
Oui,
mais
bien sûr.
Après, le personnage de Prou, vous avez raison. Robert Kennedy.
Voilà.
Parce une étoile montante.
Tout simplement. Simplement parce que peut-être il sera le prochain président des États-Unis. Alors à ce moment-là, vous décrivez par le menu une formidable opération ratée, d'ailleurs, du KGB, il faut bien le dire, mais ratée peut-être par excès de volonté de réussir. On va comprendre pourquoi je dis ça dans un instant. Et les gens du KGB se sont aperçus que y a une tournée du Bolchoï et que vraiment une étoile vedette du Bolchoï,
la plus grande vedette peut-être de Bolchoï de tous les temps,
qui s'appelle
Maria Plesetskaya.
Ils se rendent compte que en fait, elle va fêter son anniversaire. Elle est née le même jour que Robert Kennedy. Alors on l'amène à l'ambassade. Et là, il y a des gens qui lui disent, mais vous avez vu, vous êtes né le même jour, etc. C'est formidable. Écoutez, peut-être que à cette occasion-là, vous pourriez faire un cadeau à Robert Kennedy. Et tenez, on y a pensé pour vous. Et on lui dit, voilà, on va lui offrir un samovar. Mais c'était un samovar de compétition. Hein. Il était grand comme un enfant.
Voilà. Peint à la main, oui. Etc.
Et bourré de micro.
Elle sentait que c'est louche. Mais oui.
Alors, elle n'a pas voulu parce qu'elle
n'a pas voulu. Elle
ne fait pas partie du service secret. Hein.
Elle ne fait pas du tout.
Elle est manipulée.
Ils ont essayé de la manipuler parce que, soyons très clairs, ouais. Robert Kennedy a essayé de la draguer.
Bah oui,
puis, bon. Ils font des promenades. Je ne sais pas si c'est allé jusqu'au bout, mais quand même, une histoire, elle raconte elle-même. Mm-hmm. Il y avait une vraie affinité. C'est toujours le mélange de l'affinité sensuelle et de l'espionnage, et ce samovar rajoute un petit piment, voilà, je ne pourrais pas y dire, en tout cas un petit morceau de thé pimenté dans l'eau chaude de l'espionnage.
Sauf que quand elle va se balader par exemple dans New York avec Robert Kennedy, ils sont suivis, observés, espionnés. Robert Kennedy a invité une soirée à l'ambassade, elle est là, mais il y a des gens qui s'approchent pour essayer de laisser traîner leurs oreilles le plus loin possible pour entendre ce qu'ils se disent. Bon, il s'en aperçoit, Robert Kennedy.
Bien sûr, évidemment.
C'est qui le muet, là?
Évidemment, c'est qu'il fait là, oui. Mais quand même, il y avait une des belles soirées qu'ils ont passées ensemble. Et encore une fois, le mélange d'un grand sentiment et de l'espionnage, ça nous donne un cocktail explosif pour les romans de l'espion.
Voilà, alors elle, en fait, elle a dû avoir une petite histoire avec Robert Kennedy, mais ça n'a servi à rien. Alors, on va terminer, il nous reste quelques minutes, Vladimir Fedorovski, avec ceux qu'on appelle maintenant les illégaux. C'est à la mode moderne, hein, un peu l'évolution de l'espionnage russe, parce qu'il ne faut plus dire soviétique, là on est dans la Russie de Poutine maintenant. En juin 2010, peut-être certains auditeurs s'en souviennent, 10 personnes sont interpellées aux États-Unis. Ces personnes sont suspectées d'espionnage pour le compte de la Russie. Le FBI était sur le coup depuis pas mal d'années. Ça fait des titres dans les journaux. Et le 9 juillet 2010, ce jour-là, on se croirait à nouveau en pleine guerre froide parce que suite au démantèlement du réseau de la semaine d'avant, on apprend que la Russie et les États-Unis vont échanger ces espions sur l'aéroport de Vienne en Autriche. Et parmi eux, on parle d'une femme sur laquelle vous nous direz un mot dans un instant. Elle s'appelle Anna Chapman. Écoutons d'abord les explications que donnait sur cet échange qui ressemble à un scénario de film. Et écoutons ce qu'on disait à l'époque sur RTL, Nelly Denac.
Le scénario est digne des meilleurs films d'espionnage. Dans les rôles principaux, une jeune femme rousse, fille d'un ancien agent du KGB et un spécialiste en armement. Le contexte, lui, est différent. Washington et Moscou, en plein rapprochement, veulent éviter l'escalade et les médias parlent ici de guerre tiède. Les deux capitales veulent donc régler rapidement cet incident et éviter un long procès qui ne ferait que ternir leurs relations. Les 10 espions suspects russes qui ont comparu à New York seront donc expulsés en Russie dans les prochaines heures. En échange, Moscou a accepté de libérer 4 espions et les membres de leur famille. Parmi eux, le savant Igor Soutiagin, arrêté en 1999 et reconnu coupable d'avoir transmis des informations secrètes sur le système de défense nucléaire russe à la CIA. Cette décision express intervient au terme d'intenses tractations et d'allers-retours entre les ambassadeurs des deux pays. Il s'agit du plus grand échange d'espions entre les États-Unis et la Russie depuis la fin de la guerre froide.
Voilà. Alors, Anna Chapman, là, vous dites dans votre livre, vous évoquez le cas de cette femme, vous dites, là, on est aux frontières de l'imposture et du burlesque.
Bien sûr. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît. Peut-être elle a posé quand même un peu dénudée dans les grandes revues. C'est une dame qui est devenue quand même vedette à la télévision. Aujourd'hui, c'est une sorte d'égérie des Jeux Olympiques.
Elle est revenue en Russie, donc.
Elle était formée en Russie, mais elle a couché quand même avec des gens importants.
Oui, mais peut-être parce qu'on lui avait demandé quand même.
Peut-être. Elle était formée peut-être pour
pourquoi
ça.
Pourquoi vous dites qu'on confine au burlesque?
Le roman des espions, vous savez, c'est boucle était bouclée. Je commence avec une vraie fausse espion Matari, c'est une Matari des temps modernes. Voilà. Est-ce qu'elle était vraiment une très grande agent? Peut-être pas, mais en tout cas, même le vice-président américain, il a dit, on regrette qu'elle est partie. Qu'est-ce qu'elle était belle! Parce que c'est formidable. Mais ce qui est très intéressant...
On sent que vous avez moins de sentiments pour elle que pour d'autres.
Non, mais attendez,
vous parlez dans le livre.
C'est les choses... Elle continue... Elle, aujourd'hui, elle a d'actualité brûlante.
Ah bon?
Vous savez, le 7 exactement, je vais faire à France 2, 4 heures à prime time. Voilà.
Vous allez être sur France 2, aux Jeux Olympiques de Sochi.
Et qui est l'égérie des Jeux Olympiques?
C'est elle?
C'est elle, puisqu'elle lançait une scène de mode, elle parle à la télévision, elle est devenue une grande vedette, et c'est la meilleure preuve. Parce que les grands espions qu'on a vous raconté tout à l'heure,
ils ne se montrent pas.
C'est les choses secrètes. Elles se montrent et ça veut dire que c'était une sorte de Matari des temps modernes, Anna Chapman.
Voilà. Mais la tendresse, vous la réservez pour cette femme, cette vieille dame à qui vous dédiez le livre.
Mais ça, c'est une grande
qui
dame.
Qui vous a fait ses confidences.
Une formidable dame que j'ai connue, qui a dit il ne fallait pas choisir entre Hitler et Staline, il fallait choisir Winston Churchill.
Ouais. Alors voilà, donc en fait ce roman foisonne à la fois d'histoire, ça on l'a compris à travers ce que vous avez dit. Simplement je voudrais vérifier avant de vous laisser, il nous reste à peine une minute d'émission, les confidences sur l'oreiller, ça fonctionne toujours parce que on continue à s'espionner les uns les autres. Peut-être que c'est plus les secrets atomiques américains mais les secrets atomiques iraniens maintenant qui intéressent les successeurs du KGB.
Tout le monde pense, on a pensé à un moment donné que la technique, parce qu'ils peuvent nous écouter à n'importe comment,
les satellites, mais c'est pas vrai.
Il y a le facteur humain. Mais comme écrivain, le roman des espions raconte quand même pas cela.
Ça raconte pas le secret.
C'est le monde aussi d'avant, mais en même temps, c'est l'histoire humaine.
Je vous dis
Shakespeare et l'opérette, la tragédie et l'opéra bouffe, tout est là. Mystère, amour et évasion, c'est le roman des espions.
Mystère, amour et évasion. On va retenir cette formule qui convient très bien à ce roman des espionnes, donc dont on a parlé. Vladimir Fedorovski était mon invité. L'émission est maintenant terminée. Dans quelques instants, on va retrouver Flavie Flamand, bien sûr. À tout de suite.